Un rapport sur l'infiltration iranienne en France, ce sera donc à 8h12. Et puis Europe 1, matin week-end, c'est aussi de la bonne humeur, bien sûr, l'immobilier, de la pop culture. Par ici les sorties, faut-il aller voir l'affaire Bojarski au cinéma. C'est le biopic d'un faussaire porté par d'un faux monnayeur porté par Reda Kadeb.
C'est Laurie Lecholeva qui nous dira s'il faut y aller.
Oui, et bien elle nous dira oui, mais pourquoi ? Eh bien il faudra écouter Par ici les sorties. Voilà un beau programme, on est ravis d'être avec vous. Très bon réveil. Il est 6h sur Europe 1, nous sommes le samedi 17 janvier. Bon réveil.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Alexis de la Fléchère.
Et à la une ce matin, Sébastien Lecornu joue ses dernières cartes afin de doter la France d'un budget. Pas d'impôts supplémentaires pour les ménages. Augmentation de la prime d'activité, aide aux étudiants. Vous entendrez le Premier ministre. Dans ce journal également, jour J pour le Mercosur. Après 25 ans de pourparlers, le traité sera signé aujourd'hui à 17h au Paraguay. Des perdants, mais aussi des gagnants. Décryptage à suivre. Et puis des aveux qui ne changeront rien. Le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti est prescrit selon la Cour de cassation. Décision de justice historique. Mais d'abord, la tendance météo, Estelle Lafond.
Eh bien, c'est perturbé sur le sud-est aujourd'hui. Ça avait déjà commencé hier. On a une journée assez grise pour le reste du pays. Je vous donne plus de détails à la fin du journal.
Europe 1.
Le journal de 6h sur Europe 1 est présenté par Pierre Vesque. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. Comment sortir de cette impasse budgétaire ? Le Premier ministre s'est exprimé hier soir sur le perron de l'hôtel Matignon. 20 minutes d'allocution pour présenter de nouvelles mesures concernant le budget de l'État 2026. Prime d'activité pour les travailleurs les plus modestes, pas d'augmentation de la fiscalité des ménages, repas à 1 euro pour les étudiants dans les cantines universitaires ou encore un soutien de 400 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, tout en étant à 5% de déficit en 2026. Sébastien Lecornu fait tout ce qu'il peut pour convaincre le Parti Socialiste. Dans son discours, il n'a pas hésité à vivement critiquer le Rassemblement National et la France Insoumise, qui n'ont pas permis de faire voter ce deuxième texte budgétaire.
Je voudrais vous dire, à titre peut-être plus personnel, que je ressens une réelle déception, mais aussi de l'inquiétude d'avoir une partie de la classe politique préférer le blocage au travail. Et une certaine tristesse à voir la vie parlementaire n'avoir fonctionné jusqu'au bout que pour un seul des deux textes budgétaires. J'ai voulu une approche nouvelle, je n'y renonce pas pour autant. Même si la vie des partis politiques et des appétits liés à la prochaine campagne présidentielle ont parfois eu raison du bon sens et de la responsabilité. La mienne en tout cas est d'aller au bout de la mission qui m'a été confiée. Donner un budget à la France, servir tout simplement son pays. Et pour tout cela, je vous en remercie.
Sébastien Lecornu n'a pas précisé par quelle voie, 49.3 ou ordonnance, il comptait procéder pour son adoption.
L'objectif pour le Premier ministre, faire voter un budget 2026 et surtout, Pierre, rester en poste.
Oui, car il suffirait qu'un tiers du groupe socialiste vote la censure et le gouvernement Lecornu tomberait. Julien Aubert, vice-président du Parti des Républicains, est au micro d'Europe 1 Nuit. Son parti ne votera pas la censure malgré un budget qu'il définit de socialiste. On l'écoute.
Il n'y aura pas d'accord de non-censure. Maintenant, les Français, je dirais, sont épuisés par ce long trimestre de débats budgétaires sans fin, cette espèce de jour de la marmotte où on revit tous les jours le même budget et où vous avez les mêmes débats. Donc, il faut en sortir. Donc, en sortir, c'est prendre ses responsabilités. C'est un budget qui est largement écrit à 80 avec Olivier Faure. On a bien compris que l'idée, c'est de désactiver les socialistes. Sébastien Lecornu a à peu près tout lâché ce qu'il pouvait lâcher. Il y a un côté budget magique. Maintenant, tout en étant hostile, je dirais, aux équilibres de ce budget, il serait irresponsable d'essayer de créer une crise politique par-dessus.
Julien Aubert, vice-président des Républicains, était au micro de Maël Hassani. Interview complète à retrouver sur le site et l'application d'Europe 1.
C'est un nouveau cycle de discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Emmanuel Macron l'a ouvert hier. Le président de la République affirme vouloir avancer sans passage en force, mais sans paralysie. Malgré l'absence du principal mouvement indépendantiste, le Front de Libération Nationale Kanak est socialiste. Le FLNKS rejette les accords de Bougival signés le 12 juillet dernier et qui prévoit entre autres la création d'un État calédonien au sein de la République doté d'une nationalité propre sans ouvrir une perspective de souveraineté pleine de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a ouvert ce nouveau dialogue pour apporter des clarifications.
Dans l'actualité également, c'est le jour J pour l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne.
Il sera signé aujourd'hui à 17h, heure française, à Asunción, capitale du Paraguay. Présenté comme l'un des traités commerciaux les plus ambitieux jamais conclus par l'UE, il ouvrirait une vaste zone de libre-échange. Cette signature attendue intervient dans un climat politique et social tendu, malgré les inquiétudes persistantes du monde agricole européen et les divisions entre États membres. La France vote contre pour protéger des agriculteurs. Mais Barthélémy Philippe, pour certains d'entre eux, ce traité est une aubaine.
Oui, cet accord ne va pas faire que des perdants parmi les agriculteurs. La baisse des droits de douane sur les importations sud-américaines et l'augmentation des quotas de marchandises autorisées devraient profiter à deux secteurs clés de l'agriculture française, comme l'explique l'économiste Éric Dor.
Certains secteurs souhaitaient l'accord commercial avec le Mercosur, la viticulture, tout ce qui tourne autour des produits laitiers, y compris le fromage. Ça va permettre d'augmenter les ventes de ces produits français.
D'autres agriculteurs qui ont manifesté ces dernières semaines s'inquiètent légitimement de la signature de l'accord, car les pays du Mercosur auront un accès au marché européen facilité pour certains produits.
Les secteurs de la viande bovine, de la volaille, du sucre peuvent craindre la nouvelle concurrence, même si cette concurrence ne va porter que sur des quotas assez réduits, inférieurs à ce que l'on importe déjà en provenance du Mercosur.
Quoi qu'il en soit, les problèmes de l'agriculture française ne vont pas commencer avec le Mercosur. Le bilan consolidé de l'exercice 2025 pourrait faire apparaître une balance commerciale agricole déficitaire pour la première fois depuis les années 70.
Barthélémy Philippe du service économique d'Europe 1.
À l'international, Donald Trump menace les pays qui contestent son plan d'acquisition du Groenland.
Allons-nous revenir à une guerre commerciale entre les États-Unis et ses partenaires économiques? C'est la menace brandie par le président américain à tous ceux qui s'opposent à son plan de rachat de l'île. Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale, a déclaré le président américain lors d'une table ronde à la Maison-Blanche.
Nous revenons en France, Pierre, avec cette terrible nouvelle pour les proches de Marie-Thérèse Bonfanti.
La Cour de cassation estime que le meurtre, résolu 36 ans après sa disparition, est prescrit. Cette jeune femme âgée de 25 ans disparaît en 1986. Son corps a été retrouvé en 2022 suite aux aveux d'un voisin. Plus de trois décennies après son meurtre, ses enfants et son mari ne pourront jamais voir le principal coupable jugé, William Molinier.
Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, avait disparu le 22 mai 1986 alors qu'elle distribuait des journaux. Son voisin, Yves Chatin, avait un temps été suspecté, puis mis hors de cause. L'affaire était devenue un cold case, mais en 2022, rebondissement, Yves Chatin avoue avoir étranglé la victime avant de cacher son cadavre. Il est écroué puis remis en liberté en raison de la prescription. Elle était de 10 ans au moment des faits, même si elle a depuis été rallongée à 20 ans, elle n'aurait pas couvert la durée pendant laquelle aucun acte d'enquête n'a été mené. La Cour de cassation a estimé que des investigations auraient pu être réalisées dès la disparition de la jeune femme, même en l'absence de cadavre. Il n'en a rien été, l'action publique est donc prescrite. Le mari de la victime a dénoncé une injustice violente. Un jour terrible pour la famille, a-t-il dit, ému aux larmes à la sortie de l'audience.
William Molinier, donc, du service police-justice d'Europe. On termine avec le football, Pierre.
Un petit mot rapide avec la Coupe d'Afrique des Nations. Petite finale aujourd'hui, Alexis. Qui prendra la troisième place? L'Égypte ou le Nigeria? Coup d'envoi à 17h.
On suivra ça avec attention. Merci Pierre Vesque, c'était votre journal. On passe à la météo sur Europe 1.
La météo avec Avenir Rénovation. Votre partenaire confiance pour tous vos travaux. avenir-rénovation.fr.
Et on surveille, Estelle Lafont, ce matin, la pluie qui tombe pas mal entre le Var et les Cévennes.
Oui, on reste dans la dynamique de ce qui a commencé déjà hier, hein, côté Méditerranée. Ces pluies bien soutenues, hein, qui continuent en fait d'être alimentées, eh bien, par ce vent d'est, hein, qui balaye la zone, des rafales à 60 km/h. Alors, ce n'est pas extrême, mais suffisant, hein, pour rendre le temps exécrable et un petit peu dangereux, hein, sur la route notamment. D'ailleurs, il pleut aussi, hein, sur la face est de la Corse, hein, toujours en Méditerranée. L'autre moitié de la Corse, par contre, reste au sec et toute la journée. En remontant sur la carte l'axe rhodanien jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, on aura toute la journée, hein, ce ciel bouché, amenant aussi parfois localement quelques pluies. Le quart nord-ouest est plus lumineux, mais gris quand même. Ce sont des grisailles plus basses, mais sans pluie. Et puis tout autour des côtes, hein, Atlantique et puis sur la Manche, le ciel sera tour à tour plus clément, avec quelques ondées possibles en Gironde ou Sud-Bretagne. Et puis le long de la frontière allemande, c'est là où ce sera le plus agréable aujourd'hui, avec une matinée et une après-midi à peine voilées.
Les températures, fini le grand froid, fini la neige, oui. C'est beaucoup plus doux.
Exactement, ça baisse baisse un petit peu, hein, mais on est toujours bien au-dessus des normales de saison. Vous comptez ce matin au réveil 2 degrés à Embrun, 3 à Gap et Quimper. Vous avez 4 degrés à Dijon, Auch et Blois. 6 degrés pour Charleville-Mézières, Caen et Angoulême. 7 à Manosque, 8 à Ajaccio, Mont-de-Marsan et Paris. 10 à Avignon et on montera jusqu'à 13 à Bastia. Pardon.
Merci Estelle. Le meilleur de Christine Kelly et vous arrive. Christine Kelly, c'est bien sûr du jeudi, du lundi au jeudi, de 11h30 à 13h sur Europe 1. Mais d'abord les courses. Les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexis, retour à Vincennes pour ce quintet, une course au trot attelé qui réunira 14 trotteurs expérimentés, âgés de 7 à 10 ans, sur la distance de 2700 mètres. Et je n'ai pas hésité à faire confiance au numéro 8, Jalendra de Malac, une jument fiable, souvent présentée à bon escient par son entraîneur Alexis Grimaud et qui reste sur une facile victoire le 26 décembre à Vincennes, sur le parcours qui nous intéresse et qui, sur sa lancée, me paraît capable de réaliser le doublé. On lui opposera les numéros 5, Jasmine Deveau, qui vient de conclure deuxième à Vincennes en faisant jeu égal avec ma favorite, Jalendra de Malac. Ces deux-là sont donc indissociables. 4 Inérite, qui n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. 6 Iron du Gers, déjà titulaire de 3 victoires cet hiver à Vincennes en seulement 4 tentatives. Et 11 Jason Boy, pour lequel son entourage n'hésite pas à effectuer un très long déplacement depuis le centre-est jusqu'à Vincennes, avec, il est vrai, de légitimes ambitions. Enfin, les numéros 13, Jason Ginyu, 7, Icar du Béril et 9, Off Pauvautier compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 5, 4, 6, 11, 13, 7 et 9.
C'est bien noté. Merci beaucoup Thierry Léger. À demain.
Europe 1.
11h30, 13h.
Christine Kelly et vous.
Christine Kelly et vous, c'est du lundi au jeudi de 11h30 à 13h sur Europe 1.
Oui, et c'est une émission dans laquelle Christine revient avec ses chroniqueurs et ses invités sur l'actualité. Et cette semaine, Christine Kelly a reçu Bertrand Moine.
Oui, c'est un entrepreneur dans l'immobilier. Mmh. Avec Christine Kelly, il a débattu autour de la natalité. Vous savez qu'il y a une chute la natalité dans le pays pour la première fois en 2025. Le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances. Mmh. Et pour Bertrand Moine, vous allez l'entendre, il y a un lien entre immobilier et natalité.
Je suis effectivement entrepreneur dans l'immobilier, mais je souhaite m'impliquer un peu plus dans la vie civile. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien sur un sujet, à mon avis, insuffisamment traité, qui est l'immobilier au sens large dans le débat politique aujourd'hui. Donc le lien entre l'immobilier et la natalité. Alors évidemment, ce n'est pas 100% du lien de causalité, mais il est clair qu'il y a un lien de causalité qui a été prouvé par des économistes et que je cherche à démontrer en France dans mon étude. Il y a un lien de causalité entre l'envie d'avoir un enfant et la capacité matérielle d'avoir un enfant dans le contexte de la crise immobilière que nous vivons aujourd'hui. Il y a une tendance au renoncement devant cette charge financière que ça représente. Vous ajoutez à ça le fait qu'il y a un problème d'allocation de l'offre et de la demande de logements. Et il y a de moins en moins de production de logements ces dernières années, ce qui fait qu'on assiste à une pénurie qui aggrave en fait cette matérialité finalement très économique.
Est-ce qu'il y a un impact entre être locataire ou propriétaire dans le projet de la natalité ?
Quand on parle de renoncement, ce n'est pas moi qui ai employé ce terme, ce sont des économistes qui ont montré effectivement qu'il y a un lien direct entre la volonté, l'aspiration à être propriétaire de son logement et l'intégration dans la société. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de capacité à être propriétaire, je ne parle même pas d'accessibilité à un logement en tant que locataire, je parle d'accession à la propriété, il y a un certain nombre de choses qui se délitent dans la vie du couple. Mon rapport, j'ai croisé deux courbes, la courbe des mises en chantier et la courbe de la formation nette des ménages. Et en 2024, les deux courbes se croisent. Ça montre bien qu'en fait, il y a un vrai problème de droit à construire. Il faut libérer l'offre de logements, il faut redonner de l'espérance, être en capacité de construire à nouveau des logements adaptés aux nouvelles typologies de familles et aux nouveaux enjeux démographiques. Sur le mot de la fin, pas de logement, pas de bébé, faire un petit parallèle, on peut se dire que le déclin démographique et le fait qu'il y a moins d'enfants pourrait du coup libérer un petit peu la pression sur cet immobilier très tendu. On va juste prendre l'exemple de Tokyo, qui connaît depuis bon nombre d'années ce déclin démographique. Et en fait, on se rend compte que cette ville aspire en fait toute la demande et toute la tous les jeunes qui veulent aller vivre dans ce dans le centre-ville, dans les centres-villes, parce que c'est là où il y a du boulot. Et donc c'est intéressant de voir que toutes les préfectures au Japon hors Tokyo ne gagnent pas des habitants. Donc en fait, c'est pas nécessairement la dénatalité qui va diminuer la pression sur l'immobilier. En fait, on voit que c'est le contraire dans les zones tendues.
Voilà, Christine Kelly et vous, votre émission de retour dès lundi de 11h30 à 13h sur Europe 1.
C'est une émission dans laquelle on peut réagir, bien sûr, vous le savez, avec un seul numéro, celui du standard non surtaxé. Je le répète, 01 80 20 39 21, 6h14.
Europe 1, le journal permanent.
Présenté par Pierre Vesque.
Bonjour à tous. Pour éviter la censure et pour pouvoir doter la France d'un budget, Sébastien Lecornu s'est exprimé hier soir à l'hôtel Matignon. Le Premier ministre a énuméré une série de mesures pour un budget présenté comme meilleur et responsable, assurant qu'il permettrait de réduire le déficit à l'objectif fixé de 5% du PIB. Augmentation de 50 euros en moyenne de la prime d'activité pour plus de 3 millions de ménages à revenus modestes. Généralisation des repas universitaires à 1 euro. La fiscalité des ménages sera préservée. Le Premier ministre n'a pas précisé par quelle voie, 49.3 ou ordonnance, il comptait procéder pour l'adoption du budget. Signature aujourd'hui à 17h du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur après 25 ans de négociations. C'est la naissance de l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, plus de 700 millions de consommateurs, 31 pays dont la richesse cumulée représente 30% du PIB mondial. D'importantes manifestations prévues aujourd'hui dans plusieurs villes danoises et dans la capitale groenlandaise pour protester contre les ambitions territoriales de Donald Trump. Le président américain continue d'afficher son intention de s'emparer de cette île. Il menace les pays qui s'opposent à sa volonté d'acquérir le Groenland de nouvelles taxes douanières.
Merci Pierre. Chanson sortie un 17 janvier, les paroles d'Alida et Alain
bien.
Delon. C'était à l'époque en 1973. Titre qui sera à l'honneur dans la note secrète de Fabrice Lafitte.
Et puis restez bien avec nous aussi dans un instant, c'est l'immobilier. Christophe Bordet sur Europe 1 avec une nouvelle loi portée par les Républicains.
Oui, portée au Sénat pour tenter de sortir de la crise du logement. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Skoda.
On peut décider de reprendre le sport, de moins sortir le soir, de manger plus sainement, ou même de ne prendre aucune résolution. Mais acheter une voiture sans avoir essayé de Skoda, ça, on ne peut pas.
Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un minimum de 4000 euros d'équipement offert pour l'achat d'un véhicule neuf sur toute la gamme Skoda. Détails sur skoda.fr. Rendez-vous en concession pendant nos portes ouvertes ce week-end. Skoda. Au quotidien, prenez les transports en commun.
On exclut mon itinéraire pour trouver les meilleures affaires pendant les soldes.
Non, mais faut arrêter de se compliquer la vie. Une seule destination, les soldes Conforama. C'est jusqu'à moins 70% avec la deuxième des marques. Et avec la carte Confo Plus, tu as moins 10% supplémentaire sur le meuble et la déco déjà soldés. Pourquoi aller ailleurs ?
Valable selon date des soldes et dans la limite des stocks.
Dans la vie, vous pouvez choisir d'avoir des enfants, leur faire faire leurs premiers pas, les accompagner jour après jour. Tout ça pour qu'ils finissent par se jeter en boule en hurlant au milieu du supermarché.
Ou bien sinon, vous pouvez choisir une Volkswagen qui fera exactement ce que vous lui demandez.
Volkswagen, enfin une décision facile à prendre.
Pendant les instants Volkswagen, la T-Cross est à partir de 179 euros par mois.
T-Cross 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 179 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h, Alexis de la Fléchère.
Bienvenue chez vous.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bon réveil à tous. Retour de l'info à 6h30. Alexis, vous allez revenir sur la prise de parole hier de Sébastien Lecornu.
Oui, le Premier ministre a égrené toute une série de mesures. Hausse de la prime d'activité, repas en euros à l'université, maintien de ma prime rénov. Objectif très clair, hein, éviter la censure des socialistes et réussir à faire adopter le budget 2026. On va y revenir donc. Et puis vous le savez, c'est le jour J. C'est aujourd'hui que sera signé au Paraguay le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Europe 1 est allé à la rencontre des agriculteurs. agriculteurs à Lyon, partagé entre résignation et combativité.
Mais d'abord, vous l'avez entendu, il a sonné à la porte à l'instant, oui. C'est qu'à l'ami Christophe Bordet.
Bienvenue chez vous, c'est avec Christophe Bordet. Bonjour mon cher Christophe.
Et bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Christophe, un texte de loi examiné au Sénat cette semaine fait, il faut le dire, grand bruit.
Oui, une proposition de loi qui est déposée par les Républicains et qui vise à relancer la construction et la production de logements, pêle-mêle, logement social, parc privé, rénovation des bâtiments, acquisition du foncier et relance de la construction neuve. Le but est aussi de poser les jalons, en quelque sorte, qui pourront être repris dans un programme pour la présidentielle de 2027. C'est ce que dit en tout cas la sénatrice LR en charge du texte.
Alors ça nous intéresse. Que prévoit concrètement cette proposition de loi ?
Alors tout d'abord, elle a déjà été adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat et prévoit notamment un assouplissement de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose depuis 25 ans aux communes un taux minimum de logements sociaux. Les communes en retard sur cet objectif pourraient se rattraper en y incluant des logements intermédiaires. Vous savez, vous avez beaucoup d'eau, vous mettez un petit peu de sirop de fruits, ça se mélange et c'est plus facile à avaler en quelque sorte parce qu'il y a ce petit goût sucré. Bon, là, c'est un peu la même chose. Alors, logement intermédiaire, Kesako, c'est un type de logement qui se situe entre les HLM et les logements privés en termes de loyer et de conditions d'accès. D'accord. Ces logements sont destinés aux personnes qui ont des revenus faibles, mais pas au point de pouvoir bénéficier d'un logement HLM. Ces mêmes personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter, bref, qui sont finalement entre deux situations.
Et cette idée d'assouplir l'obligation de construction de logements sociaux, ça fait grincer des dents.
Bah oui, comme d'habitude, la gauche bien pensante qui n'a aucun mal à gaspiller l'argent des Français qui travaillent et vent debout. Oui, vent debout, le sénateur écologiste Yannick Jadot, par exemple, y voit une remise en cause de la loi SRU, qui va à l'opposé de ce qu'il faudrait faire, dit-il. Ils sont comme ça à gauche, ils voudraient mettre tous les Français dans des HLM. C'est pas nouveau. Autre sujet dans le texte qui les met alors hors d'eux, le renforcement du pouvoir des maires dans l'attribution des logements sociaux. Oui, en leur donnant un droit de veto, ils pourraient dire non, une mesure qualifiée de clientéliste ouvrant la voie à la préférence nationale, selon certains.
Et enfin, Christophe, ça aussi, ça a dû mettre vent debout la gauche. Il s'agit aussi de compléter la loi anti-squat.
Oui, compléter les mesures de la loi de 2023. Il s'agit de pénaliser cette fois les individus qui se maintiennent dans le domicile d'autrui après une entrée légale via la location touristique, ce qui est de plus en plus fréquent. Alors, les procédures d'expulsion des squatteurs sont également élargies aux bureaux, aux commerces et autres locaux, commerciaux par exemple. L'ensemble de la gauche a déposé des amendements afin de supprimer cette dernière partie du texte où quand les gens malhonnêtes doivent avoir la loi avec eux et non pas contre eux. Merci la gauche.
Voilà, ça va plutôt dans le...
Non mais là je dis ce que je pense parce qu'on en a marre. Quoi. Voilà.
Bon. Merci Christophe, on vous retrouve avec plaisir demain.
Avec plaisir.
Il est 6h21.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. L'info revient bien sûr à 6h30. Sauver le budget 2026, coûte que coûte. Prime d'activité revalorisée, retraités rassurés, étudiants choyés. Sébastien Lecornu, l'âge du lest pour éviter la censure du Parti Socialiste. On va revenir sur les mesures annoncées par le Premier ministre. Et puis à 6h30, Europe 1 à Lyon également, au plus près des agriculteurs qui vont assister impuissants aujourd'hui au Paraguay à la signature du traité de libre-échange Union Européenne-Mercosur.
Tour complet donc de l'actualité dans un instant. Mais c'est d'abord l'heure de retrouver la note secrète de Fabrice Lafitte.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Alexis, bonjour Estelle.
Hello.
Un 17 janvier, tout comme aujourd'hui, mais en 1973 à l'époque, sort un duo atypique entre Dalida et Alain Delon. Paroles, paroles,
paroles. Écoute-moi.
Cette chanson est l'adaptation française d'un titre italien écrit au début de l'année 1972. Parole, parole. Oui, je parle bien italien, j'ai fait italien en sixième langue.
L'anglais, l'italien.
Ah oui,
couteau suisse, Fabrice Lafitte.
Interprété par Mina Mazzini, une chanteuse, et l'acteur Alberto Lupo. À l'origine, cette chanson sert de thème d'ouverture pour la populaire émission de télévision A Italienne, Teatro 10, avant d'être publiée en disque vinyle.
Bonbons et chocolat.
Ouais, ça, c'est la version originale italienne.
Et Fabrice, c'est un énorme succès en Italie. Mais comment ce succès débarque en France, chez nous?
Mais je vais tout vous expliquer, Alexis. Ah, voilà. C'est grâce à Orlando, vous savez, le frère et producteur de Dalida, qui découvre à la radio cette chanson lors d'un séjour en Italie. Le lendemain, Orlando s'arrange pour rencontrer les détenteurs des droits et propose à Dalida d'enregistrer ce titre. Dalida accepte aussitôt, à la condition, et il y a toujours une condition, qu'Alain Delon, son ami depuis 17 ans, soit la voix masculine qui lui donne la réplique.
Bah, en vrai, ils sont plus qu'amis.
Ouais. Oui, Alain Delon et Dalida se sont rencontrés en 1963 à Rome, loin des regards et des paparazzi. L'acteur, à l'époque, a du mal à se remettre de sa séparation avec Romy Schneider. Et cette relation avec Dalida tourne rapidement en une idylle passionnée. Ils partagent ensemble un appartement rue Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement de Paris. Orlando demande à la jeune écrivaine Michaëlle d'écrire les mots, car comme Dalida, elle est d'origine égyptienne. En octobre 1972, Dalida et Alain Delon se retrouvent au studio des Dames à Paris pour l'enregistrement en seulement 2 prises. Dalida enregistre sa partie.
Et puis vient le tour d'Alain Delon.
Et pour créer une atmosphère intime, Alain Delon fait tamiser la lumière du studio. Il s'assoit sur un tabouret et tout en regardant Dalida dans le noir, donne sa réplique à la voix de Dalida. Ensuite, Dalida et Alain Delon font une prise ensemble, juste pour le plaisir, celle-ci ne sera pas conservée. Et grandeur du personnage, Alain Delon refuse même d'être payé. Ce 45 Classe. Tours paraît le 17 janvier 1973 et devient rapidement le tube de cette année 73.
Eh bien, ce sera le tube de cette matinale sur Europe 1. Parole, parole, Alain Delon et Dalida sur Europe 1. Bonne écoute.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les autres. Jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole.
Parole, duo entre Dalida et Alain Delon, paru le 17 janvier comme aujourd'hui, mais c'était à l'époque en 1973.
Et cette chanson remporte donc un immense succès en France, comme on l'a dit, mais aussi dans d'autres pays, plus surprenants, au Japon et au Mexique.
Oui, quel est le programme demain, Fabrice?
Demain, nous reviendrons sur l'un des incontournables de Daniel Balavoine à l'occasion des 40 ans de sa disparition.
On a hâte de cet hommage à Daniel Balavoine. Merci Fabrice, à demain.
Merci Estelle et merci Alexis, à demain.
Il est presque 6h29 sur Europe 1, à suivre eh bien, vos balades du jour, Alexis.
Oui, nous vous emmenons en Camargue ce matin, profiter des magnifiques paysages de la Camargue, ses grands espaces, ses chevaux, ses flamants roses, avec une adresse d'exception, le Mas de Pain. Ce sera Vanessa Zah, bien sûr, qui va nous présenter tout ça.
Et puis de l'authenticité, on vous en offre dans l'assiette tous les week-ends, avec ce 17 janvier, de l'os à moelle.
Et oui, de l'os à moelle, bien grillé, fondant sur une tranche de pain bien grillé. C'est la recette d'Olivier Pouls. Et puis, votre journal, évidemment, dans moins d'une minute sur Europe 1, tout de suite.
Bonjour, c'est Eliott Deval. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1, même quand elle dérange.
Eliott Deval et vous, du vendredi au dimanche, de 11h à 13h sur Europe 1. Europe 1.
La radio libre.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement, à partir de 359 euros par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mixte WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pensez à covoiturer.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h.
Alexis de la Fléchère.
Nous sommes le samedi 17 janvier. Soyez les bienvenus dans Europe 1 Matin Week-end. Il est l'heure de s'informer avec à la une ce matin. Il est meilleur et il peut rassembler les mots de Sébastien Lecornu au sujet du nouveau budget 2026. Dans cette dernière ligne droite, pour trouver un compromis, le Premier ministre a dévoilé toute une série de mesures. Objectif, éviter la censure en cas d'adoption du texte sans vote. Dans ce journal également, Europe 1 à Lyon ce matin, les agriculteurs restent mobilisés pour protester contre l'accord de libre-échange du Mercosur, traité qui doit être signé aujourd'hui au Paraguay après 25 ans de négociations. Et puis, est-ce que vous vous souvenez de vos cours de mathématiques, une matière dans laquelle la France est à la traîne par rapport à ses voisins européens? Une nouvelle méthode est à l'essai dans certaines classes pour tenter de corriger le tir, vous l'entendrez. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Estelle Lafont.
Eh bien, c'est un samedi assez calme mais plutôt gris, avec une zone de forte pluie à surveiller du côté des Cévennes. Je vous explique ça à la fin du journal.
Europe 1.
Le journal de 6h30 sur Europe 1, présenté par Alexis Bourdon. Bonjour Alexis.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. Trouver un compromis pour éviter la censure, l'objectif de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a abattu ses dernières cartes après avoir acté l'impossibilité d'un vote à l'Assemblée. Le locataire de Matignon a présenté hier soir une nouvelle copie de son projet de budget dans laquelle Maïalène Trémollet, il multiplie les concessions au Parti Socialiste.
Oui, s'il défend un budget équilibré permettant de réduire le déficit à moins de 5%.
Ce budget va être différent. Il est meilleur et il est, je le crois, responsable.
Concrètement, la plupart des nouvelles mesures listées par le Premier ministre sont issues des réclamations du Parti Socialiste et des Républicains. Augmentation de la prime d'activité pour 3 millions de ménages, généralisation du repas universitaire à 1 euro pour les étudiants à la demande du PS, pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu à la demande des LR. Le Premier ministre espère ainsi obtenir la garantie d'un pacte de non-censure et accuse dans le même temps la France Insoumise et le Rassemblement National d'avoir provoqué la suspension des débats à l'Assemblée.
La France Insoumise et le Rassemblement National ont bloqué ce travail et ont méthodiquement rendu le texte incohérent et donc invotable.
Manière de rejeter sur les oppositions l'absence de vote à venir et le recours nécessaire au passage en force que Sébastien Lecornu voulait à tout prix éviter.
Je ressens une réelle déception, mais aussi de l'inquiétude d'avoir une partie de la classe politique préférer le blocage au travail.
Toujours est-il que le gouvernement n'a plus que deux options à ce stade, passer par l'article 49.3 ou par les ordonnances, fait inédit sous la Ve République. Le Premier ministre n'a pour l'instant pas précisé sur laquelle il comptait s'appuyer.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Le Parti Socialiste a lui salué ses annonces, mais assure qu'elles restent pour l'instant insuffisantes. Lors de cette prise de parole, Sébastien Lecornu a également eu des mots pour les agriculteurs. D'après le Premier ministre, les engagements pris seront tenus. Cette semaine, le gouvernement a promis une loi d'urgence qui sera présentée en mars. Ce texte sera axé autour de plusieurs priorités, comme l'eau ou encore les moyens de production.
Et après les mobilisations dans Paris cette semaine, les agriculteurs, Alexis, se donnent rendez-vous mardi prochain pour manifester contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur.
Près d'un millier de tracteurs vont converger en direction du Parlement européen. Ils veulent maintenir la pression sur les eurodéputés alors que l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur doit être signé aujourd'hui. Ursula von der Leyen est attendue au Paraguay pour paraffer au nom de la Commission européenne ce traité négocié depuis 25 ans, et ce malgré l'opposition de la France.
Épreuve de l'opposition des agriculteurs français contre ce traité, des manifestations se poursuivent. Hier d'ailleurs, dans certaines régions, on a vu des agriculteurs mobilisés.
Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs redoutent l'arrivée de produits qui ne respectent pas les normes en vigueur en France. À Lyon, où la mobilisation ne faiblit pas, les paysans restent persuadés que les dés ne sont pas encore jetés. Reportage du correspondant Europe 1, Jean-Luc Boujon.
Les agriculteurs ne se voilent pas la face. Cette signature aujourd'hui avec les pays du Mercosur n'est pas une bonne nouvelle. Alors à quoi bon continuer le combat? Certains comme Florent Chipier, arboriculteur à Chabanières dans le Rhône, sont un peu résignés.
Je suis très pessimiste. Il y a certaines filières qui vont disparaître à l'allure où ça va. En fait, nous on demande juste une seule chose, c'est bon bah ok, on ouvre les portes avec le Mercosur, mais laissez-nous travailler comme les autres, au moins comme nos voisins européens, quoi.
Mais d'autres estiment que malgré la ratification du traité, rien n'est perdu, ou plutôt que tout est encore jouable. C'est le cas de Jean-Luc Perrin, éleveur de bovins et président de la FDSEA de la Loire.
On va se battre jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde. Et notamment, il y a la saisie de la Cour de justice européenne. Où c'est que les eurodéputés vont voter pour saisir la Cour de justice européenne ou contre. Et c'est pour ça que nous serons à Strasbourg mardi, pour mettre la pression sur les eurodéputés pour qu'ils votent pour saisir la Cour de justice. Ça ne va pas forcément anéantir le Mercosur, ça va l'arrêter pendant 18 mois. Donc on pourra continuer à se battre pour s'opposer à ce Mercosur. Comptez sur nous pour pas qu'on lâche.
L'heure est donc toujours au combat, mais également, et cela sera visible mardi, à l'Union des agriculteurs à travers l'Europe. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et à 6h40, vous reviendrez, Alexis, sur cette question de la souveraineté alimentaire avec votre invité Bruno Parmentier, économiste et consultant spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires. Eux ont décidé de mettre fin à leur mobilisation. Les syndicats de médecins libéraux ont suspendu leur mouvement après 10 jours de grève. Ils ont obtenu des promesses du gouvernement qui s'engage, entre autres, à revenir sur la possibilité pour l'assurance maladie d'imposer à un praticien des objectifs de réduction des tarifs.
À l'étranger, à présent, la vague de protestations en Iran s'affaiblit, étouffée, Alexis, par la violente répression du régime.
Selon les ONG, la répression a causé la mort de plus de 3400 personnes. Ce mouvement de soulèvement est suivi par les millions d'Iraniens en exil. C'est le cas de Nazila Maroufian, qui vit aujourd'hui en France. Plusieurs fois arrêtée et menacée de mort par le régime des Mollahs, la jeune femme suit chaque jour l'évolution de la situation. Elle craint pour sa famille et ses amis toujours sur place, mais elle garde espoir quant à l'issue de cette révolte, comme elle le raconte au micro d'Europe 1.
Quand je vois que mon pays, ils vont pas bien à cause de ce régime, comment je peux être bien quand ils ont été tués 12 000 personnes, quand j'ai pas même la voix de ma famille? C'est hyper difficile. Quand vous devez juste attendre, c'est pas la première fois que la République islamique il a été tuée, les personnes comme ça, les manifestants comme ça. Et cette fois, vraiment, c'est différent. Que Trump, il nous aide pas, on va réussir un jour. On va avoir la liberté. J'espère que cette fois, c'est la dernière fois et on ne va pas perdre beaucoup de vie plus que ça.
Cette mobilisation est également suivie aux États-Unis, où le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, s'est dit convaincu que la République islamique allait tomber. Les États-Unis qui gardent un œil sur le Groenland, Donald Trump a martelé qu'il en avait besoin pour assurer la sécurité nationale. Le président américain a menacé de droits de douane les pays qui s'opposeraient à son plan visant à acquérir le territoire autonome danois. En réaction, d'importantes manifestations sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes du Danemark et dans la capitale groenlandaise.
Retour en France, où le niveau des écoliers en mathématiques inquiète le directeur général de Safran.
Olivier Andriès tire la sonnette d'alarme auprès des sénateurs. Le directeur général du groupe industriel français qualifie de bombe à retardement la réforme du bac de 2019, rendant les mathématiques optionnelles. Pire, selon l'étude Teams de 2023, la France se classe dernière de l'Union européenne. Pour tenter de relancer l'apprentissage des maths en France, une nouvelle méthode est à l'essai dans plusieurs écoles primaires du pays, comme l'a constaté Laura Legault à Amilly dans le Loire et pour Europe 1.
Dans cette classe de CM1, tous les élèves écoutent attentivement la maîtresse au programme ce jour-là.
On va donc commencer la séance sur la comparaison des fractions.
Depuis plusieurs mois, ils apprennent les maths grâce à une nouvelle méthode. Jusque-là, les élèves devaient d'abord chercher à comprendre par eux-mêmes. Désormais, ils doivent reproduire ce que l'enseignant leur montre.
Je vais commencer par vous montrer comment on fait pour comparer les fractions. Premier exemple, je dois comparer un demi et un tiers.
Après, nous faisons avec les élèves. Nous essayons de les entraîner pour qu'ensuite ils puissent faire seul.
Autre changement, les élèves doivent participer.
On doit expliquer comment on a trouvé le résultat.
Ça nous aide aussi, ça nous habitue à mettre la justification.
Une méthode qui fait ses preuves selon le rectorat. Les élèves progressent plus vite sur certaines notions. Pas convaincant pour Mélanie Guenet, maître de conférence en mathématiques à l'université Paris-Saclay.
La méthode est basée sur l'enseignement explicite. C'est des méthodes qui sont assez magistrales. C'est très basé sur la répétition des tâches. Ça va peut-être favoriser une amélioration des résultats à des tests parce qu'on a entraîné à ces mêmes tests.
L'expérimentation doit être évaluée à la fin de l'année. Elle pourrait être étendue à d'autres établissements dès la rentrée prochaine.
Laura Legault pour Europe 1.
Merci beaucoup Alexis Bourdon, c'était votre journal. Place à la météo sur Europe 1.
La météo avec Avenir Rénovation. Votre partenaire confiance pour tous vos travaux. avenir-rénovation.fr.
C'était déjà le cas hier et ça continue aujourd'hui, Estelle, de la pluie sur le sud-est.
Oui, elle
du
joue
pays.
Les prolongations dans le secteur entre les Cévennes et le Var. D'ailleurs, l'Hérault passera en vigilance orange, pluie, inondation ce soir dès 18h. Alors, dans le ciel, on a une bonne partie du pays qui est influencée par ce mauvais temps, mais de manière plus calme. On a de rares pluies sur l'axe rhodanien, un peu sur le sud-ouest, mais c'est surtout la couleur du ciel, gris foncé, et ce, toute la journée, même jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. On a une petite zone à peine voilée et assez lumineuse autour de la frontière allemande. Et puis, c'est sur l'ouest de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux régions du Nord que le ciel est juste dans une petite grisaille ce matin, mais plus clair que sur la moitié sud. Le long des littoraux, on a des jolies éclaircies. Alors, on n'est pas à l'abri du côté atlantique de prendre une petite pluie sur le bord de mer, mais ce n'est en revanche pas le cas tout le long de la Manche où les petits brouillards côtiers vont se dissiper et amener de beaux carrés de soleil entre le Cotentin et la Côte d'Opale.
Les températures et pas de grand froid à l'horizon.
Non, cet après-midi, les maximales stagnent. C'est un peu plus froid ce matin, mais un froid relatif. Attention, c'est doux, c'est au-dessus des normales. Vous comptez ce matin 4 degrés à Clermont-Ferrand, Colmar et Montauban. Il fait 5 à Bourg-en-Bresse, à Tours ainsi qu'à La Rochelle. Vous avez 6 degrés à Honfleur, à Vierzon, dans le Cher, à Valenciennes. 7 degrés pour Manosque, pour Bordeaux, Grenoble et Reims. 8 degrés à Lons-le-Saunier et Paris. 10 degrés pour Avignon et Montpellier. 11 à Nice, 12 à Marseille et 13 à Toulon.
Merci Estelle. Dans un instant sur Europe 1, vos balades du jour avec Vanessa Zaza et Olivier Pouls. Et si je vous parle de grands espaces, de chevaux, de flamants roses,
France, je ne vois que la Camargue.
Bravo Estelle. En plein dans le mille, nous allons en Camargue ce matin avec Vanessa Zaza et puis Olivier Pouls nous fera, on va déguster avec Olivier un os à moelle. C'est très 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 bon tout ça. Mais d'abord, le premier invité d'Europe 1 Matin Week-end.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h, Alexis de la Fléchère.
À 6h41 sur Europe 1, vous accueillez Alexis de la Fléchère, Bruno Parmentier, ingénieur économiste spécialiste dans les questions agricoles et alimentaires.
Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
Aujourd'hui, après 25 ans de négociations, l'Union européenne signe au Paraguay l'accord de libre-échange avec le Mercosur. La France et plusieurs pays s'y sont opposés sans réussir à bloquer ce traité. Ursula von der Leyen parle d'un accord historique. Le président brésilien Lula dit que c'est une chance pour la croissance mondiale. Mais en France, les éleveurs disent, pour nous, ce n'est pas historique, c'est tragique. Alors ma première question est très simple. Est-ce que cet accord, Monsieur Parmentier, il est historique pour qui? Et s'il est tragique, pour qui?
Alors attendez. Notre commerce international, c'est d'abord à l'intérieur de l'Europe. À l'extérieur de l'Europe, avec qui on commerce? Avec la Chine et les États-Unis, fondamentalement. Et puis avec les pays européens qui sont plus dans l'Europe. La Grande-Bretagne, puis la Suisse et la Turquie. Bien. On a de plus en plus de mal de commercer avec la Chine et les États-Unis. C'est pas la peine d'en faire un dessin. Donc, quelque part, est-ce qu'on va s'étioler, rester entre nous, ou est-ce qu'on va chercher des solutions? Actuellement, le commerce avec les pays du Mercosur, c'est très très peu. C'est 10 fois moins que le commerce avec la Turquie. Enfin, c'est 3 fois moins qu'avec la Turquie, 10 fois moins qu'avec les États-Unis. Donc, on se dit, là-bas, il y a 350 millions de personnes. On peut peut-être commercer avec le Brésil en Argentine, ce qu'on peut pas commercer avec les États-Unis ou avec la Chine. Alors, évidemment, c'est d'abord des produits industriels qu'on va vendre.
Mais c'est ça le problème, d'ailleurs. C'est pour ça que
20% de l'emploi en France, c'est des gens qui travaillent pour l'export. Donc ces gens-là, ils sont beaucoup moins nommément désignés que les agriculteurs, donc ils sont pas dans la rue en exigeant qu'on exporte. Mais enfin, si on est ouvrier chez Renault, chez Peugeot, dans la chimie, dans les machines-outils, mais même dans l'agro-industrie. Quand oui. on est dans le vin, quand on est dans le fromage, on aura des emplois si on arrive à vendre nos produits au Brésil, en Argentine.
Alors là, justement, vous nous parlez des gagnants dans cette affaire, mais il y a aussi des perdants. On parle, par exemple, des éleveurs bovins qui sont très inquiets parce qu'ils craignent notamment qu'on puisse faire venir sur notre sol des viandes qui ne respectent absolument pas les mêmes normes auxquelles eux sont contraints ici, chez nous, en France. Et ça les inquiète, il faut aussi les entendre.
Actuellement, on importe environ 200 000 tonnes de bœuf du Mercosur, avec des droits de douane. Avec le Mercosur, il y aura 100 000 tonnes, 99 000 tonnes, qui rentreront sans droits de douane. Alors, 99 000 tonnes pour un auditeur, c'est beaucoup. Enfin, faut se rendre compte que c'est 1,6% de la consommation européenne de viande. C'est l'équivalent d'un steak par personne. Hein. Alors, c'est l'effet cerise sur le gâteau aux gouttes d'eau. Les éleveurs se portent mal. C'est compliqué pour eux.
Oui.
Et puis, il y a un mouvement de société de toute façon énorme. On consomme moins de viande. Donc, on consomme à peu près 20% moins de viande qu'en l'an 2000. En 25 ans, on a baissé de 20%. Je pense qu'on va continuer. Donc, on va encore baisser notre consommation de viande de 15-20% dans les années qui viennent. Et donc, il faut aider les éleveurs à passer de la quantité à la qualité. Parce que, de toute façon, pour plein de raisons, la protection animale, le réchauffement de la planète, notre santé, l'obésité, etc., la consommation de viande va continuer à baisser. Les 1,6% là-dessus, c'est la cerise sur le gâteau, évidemment. Ils sont pas contents du tout. Donc, ils cherchent des arguments. Mais le global, c'est que avec cette instabilité gouvernementale et puis avec un peu le désintérêt de la société pour l'agriculture, depuis 5 à 10 ans, l'Europe et la France tournent la tête. Donc, ils sont furieux, ils sont mal, ils gagnent mal leur vie et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Donc, ça sert d'excuse. Mais c'est un petit phénomène par rapport au grand phénomène qui est la baisse de notre consommation de viande et la nécessaire adaptation de notre production, de notre consommation.
En vous écoutant attentivement, Bruno Parmentier, on comprend bien qu'il y a les grands industriels, le secteur, vous le dites, hein, des vins et spiritueux, du fromage qui vont être gagnants. On comprend bien également, en vous écoutant, que les agriculteurs de bovins vont quand même... peuvent quand même se faire du souci, parce que je vous fais réagir là-dessus. Ils s'inquiètent parce que, soyons honnêtes, est-ce que vraiment le bœuf brésilien ou le poulet sud-américain vont respecter les mêmes standards que les produits français? C'est ça aussi le nerf de la guerre pour nos producteurs, nos paysans.
Il y a des clauses. Le problème des clauses, c'est de les faire respecter. Mais on a déjà quand même une expérience qui est l'accord avec le Canada. Il y a 7 ans, c'était la même émotion, c'est pas possible, on peut pas signer d'accord avec le Canada.
Le fameux CETA. Bon,
la réalité, c'est que, compte tenu des normes qu'on a mises, il y a très peu d'éleveurs du Canada qui se sont mis aux normes. Et 7 ans après, là on peut faire le bilan, nous avons augmenté nos exportations de viande au Canada, et le Canada ne nous vend pratiquement pas de viande. Autrement dit, il y a la liberté du commerce, et ensuite, il y a les normes sanitaires. Alors, le problème des normes sanitaires, c'est qu'effectivement, le Canada est un pays beaucoup plus organisé que le fin fond du Brésil. Et nous contrôlons assez peu. C'est des quantités énormes, et bon, ils contrôlent au hasard. Donc, bien évidemment, il va falloir renforcer considérablement les contrôles, et probablement, il va falloir faire ce qu'on a fait avec le Canada, aller sur place pour voir un peu quels sont les éleveurs, comment ils élèvent. Mais effectivement, les méthodes d'élevage au Canada, à la fois en termes de quantité et en termes d'ingrédients, sont pas les mêmes que la France.
Oui.
Voilà. Alors maintenant, que les Français n'aient pas peur de se faire empoisonner, ça représente, encore une fois, ça représente 100 000 tonnes alors qu'il y en a déjà 200 000 tonnes. Et puis les Français, rien ne les empêche d'être citoyens et de dire, je veux manger de la viande française. Vous parlez c'est un choix de chacun.
Bruno Parmentier, vous parliez de la Chine en tout début d'interview. Elle est devenue le premier partenaire commercial des pays du Mercosur. C'est justement le but de ce traité, c'est-à-dire que on va pouvoir peut-être concurrencer les Chinois et leur faire de l'ombre. C'est l'objectif de ce traité.
Ben oui, regardez, quand on veut vendre nos produits européens au Mercosur, ils sont taxés. Les pièces de voiture sont taxées à 18%, les produits chimiques aussi, les produits pharmaceutiques, les textiles à 35%, le vin à 27%, les fruits au sirop à 55%, etc. Bon, ben, tous ces droits de douane vont sauter. Bon, c'est quand même une chance de pouvoir vendre quelques produits fabriqués en France et en Europe qu'on ne pourra plus vendre aux États-Unis parce qu'avec M. Trump, c'est l'inverse. Il y a de plus en plus de droits de douane et qu'on a beaucoup de difficultés à vendre en Chine parce que eux-mêmes montent en gamme et puis nous faut concurrence. Donc, est-ce que l'Europe se confine à l'intérieur de l'Europe ou est-ce que les 20% d'emplois en France qui travaillent pour l'exportation, on en a besoin? Et dans cette grande géopolitique mondiale où l'on voit que la Chine et la Russie, la Chine et les États-Unis se disputent l'ensemble du monde, ça explique tout, le Venezuela, l'Iran, l'Ukraine, tout. Au milieu de ça, est-ce que l'Europe a une politique? Pour une fois, l'Europe décide. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de Français qui se sentent mis en minorité par cette décision de l'Europe. Mais moi, je le vois quand même comme une chose positive. Pour une fois, l'Europe n'est pas à la traîne et dit, entre les États-Unis et la Chine, on a encore des initiatives qu'on peut prendre. Tiens, si on allait voir les Brésiliens, les Argentins.
C'est très clair votre raisonnement, Bruno Parmentier. C'est vrai que les agriculteurs souffrent d'un côté et c'est difficile parfois de comprendre qu'on puisse avoir un intérêt dans ce traité du Mercosur, mais on a bien compris votre position. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci, bonne journée.
Europe 1, il est 7h10.
Europe 1, le journal permanent.
Présenté par Alexis Bourdon.
Il est meilleur et il peut rassembler les mots de Sébastien Lecornu au sujet du nouveau budget 2026. Dans cette dernière ligne droite pour trouver un compromis, le Premier ministre a dévoilé une série de mesures, notamment la généralisation des repas universitaires à 1 euro ou encore une augmentation de la prime d'activité de 50 euros en moyenne par mois pour plus de 3 millions de ménages. Objectif, éviter la censure en cas d'adoption du texte par 49.3 ou par ordonnance. Après des décennies de négociations, l'accord de libre-échange avec le Mercosur doit être signé aujourd'hui à Asunción, au Paraguay. Une majorité d'États européens a récemment soutenu le traité malgré l'opposition de plusieurs pays, dont la France. À l'étranger, d'importantes manifestations aujourd'hui dans plusieurs villes du Danemark et dans la capitale groenlandaise. Une réponse aux récentes déclarations de Donald Trump sur le Groenland. Le locataire de la Maison Blanche a martelé qu'il en avait besoin pour assurer la sécurité nationale. Il a également menacé de droits de douane les pays qui s'opposeraient à son plan visant à acquérir le territoire autonome danois. Et puis en football, petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations cet après-midi. L'Égypte et le Nigeria se disputeront la troisième place à 17h. Demain, le Maroc, pays hôte de la compétition, tentera de reporter la CAN devant son public face au Sénégal.
On suivra tout ça avec beaucoup d'attention. Merci Alexis, restez bien avec nous sur Europe 1. Vos balades du jour arrivent avec Vanessa Zah. On part en Camargue ce matin et avec Olivier Pouls, on partage entre amis, tranquillement, un os à moelle. C'est
plaisir.
Excellent l'os à moelle. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Daniel Balavoine.
Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère.
Une voix, une liberté.
Un destin extraordinaire.
Il était déjà le modèle d'une manière de vivre et d'une manière de chanter qui était très particulière.
Avec Europe 1, découvrez la vie hors norme de Daniel Balavoine.
Avec un témoignage inédit de son frère Guy et les archives exceptionnelles de la radio.
Je le ressens comme la possibilité de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, dans la bonne humeur.
Destins extraordinaires, Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche.
Un podcast à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359 euros par mois, sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier, si accord Kia Finance. Cycle mixte WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Kia.
du mouvement via l'inspiration.
Europe 1 matin week-end. 6h-9h, Alexis de la Fléchère.
Il est 6h53 sur Europe 1, soyez les bienvenus, on est ravis de vous accompagner jusqu'à 9h avec Estelle. On vous informe également sur Europe 1.
Oui, avec le journal de 7h qui arrive dans un instant. Et cette question, Sébastien Lecornu va-t-il convaincre les socialistes de ne pas le censurer?
Il fait tout pour, en tout cas. Le Premier ministre a annoncé hier toute une série de mesures pour rassurer un peu plus la gauche. Hausse de la prime d'activité, aide maintenue, soutien aux étudiants. On va revenir donc en détail sur ces annonces. Et puis à 7h, vous entendrez également un jeune agriculteur qui va se lancer dans le métier. Il est partagé entre passion et par peur aussi. Hein. Il craint la grande précarité. Vous savez qu'aujourd'hui d'ailleurs sera signé au Paraguay le traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur.
Mais avant le retour de l'info, Alexis, eh bien, il est l'heure de partir en balade. Et ce matin, alors on va un petit peu loin de Paris, en Camargue.
Oh oui, c'est magnifique, la Camargue. On cuisine également. Et c'est bien sûr avec Vanessa Zah et Olivier Pouls. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Toute l'équipe.
On va manger un os à moelle dans un instant avec Olivier, mais d'abord vous nous emmenez, Vanessa, au Mas de Pin. C'est l'un de vos endroits préférés pour découvrir un très bel endroit, la Camargue et ses hommes.
Ses hommes surtout, parce qu'il faut la vivre avec ses tripes, voilà. Comme eux. Hein. Cette terre où ils travaillent, c'est une terre de liberté, de grands espaces. On en a envie, tu sais, ce début d'année. Puis de faune sauvage, avec ses chevaux, ses flamants roses. Et oui, c'est la période pour assister à leur parade nuptiale, Estelle. Les mâles séduisent les femelles grâce à leur robe rose. Plus ils le sont, plus ils ont de chance. Et il faut savoir qu'ils ne laissent en fait blanc, gris.
Oui, c'est moche.
Oui, c'est pas très beau, mais c'est en mangeant des crevettes chargées de pigments, qu'on appelle les caroténoïdes, et bien qu'ils rosissent. Et voilà. Puis, qu'est-ce qu'il y a aussi en Camargue? Et ben, des taureaux.
Des taureaux, exactement. Et donc, au Mas de Pin, ils ont une manade de taureaux qui, eux, par contre, n'ont rien à voir avec les taureaux qu'on a en Espagne.
Non, en fait, plus petits avec les cornes en l'air. D'accord. Là, il n'y a pas de corrida. On n'est pas dans le combat. On est vraiment dans un jeu. En fait, les rasteurs doivent attraper avec un crochet les attributs qui sont accrochés à leur frontal, donc, dont une cocarde. Hein, voilà. C'est un sport. On n'est pas dans le dressage. C'est vraiment à l'instinct, ça se fait vraiment dans l'émotion. Et ça, on le sent dans cette manade, surtout dans les yeux de Frédéric Bon, qui est le propriétaire du Mas de Pin. Et il partage avec vous donc les coulisses de sa manade.
Ça doit être extraordinaire, vraiment.
Ouais, c'est superbe. Ça donne envie. Et on est vraiment sans folklore, balade à cheval ou en 4x4. Il y a des démonstrations de ferrades. Mmh. Et puis évidemment aussi la peña en fanfare.
Ouais. Et ce qui est encore mieux, Vanessa, c'est de poser ses valises au Mas, qui a été transformé en hôtel.
Exactement, par Jacques Bon. Jacques, c'était le père de Frédéric, c'est lui qui avait développé la manade de taureaux. Donc c'est une histoire de famille, de transmission, ça se sent dans ce mât, c'est un mât traditionnel camarguais, c'est-à-dire il est en U, il date de 1602, et aujourd'hui c'est un hôtel de 15 chambres, on est dans une maison de famille, on sent l'esprit camarguais, leur culture, mais aussi leur travail, parce que ce sont des éleveurs de blé et de riz. Vous savez que le riz a été planté en Camargue pour dessaler l'eau des marais. Et puis, ce riz, on le retrouve dans notre assiette. Et moi, j'invite Olivier pour la côte de taureau de Camargue. Riz rouge aux légumes croquants. Et ça, c'est un délice.
J'arrive. Il ne va pas vous dire non.
Mais il a autre chose à nous proposer
oui,
ce matin.
Oui, on va manger un os à moelle avec Olivier Pouls.
Ah, mais vous ne savez pas à quel
c'est
point
tellement bon.
J'adore l'os à moelle. On n'y pense pas souvent. C'est un sous-produit du bœuf. L'os à moelle est vendu généralement très peu cher, voire même chez certains bouchers sympathiques.
Oui, qui nous en fait cadeau. Exactement. Eh ben c'est vrai. Ça
alors c'est
arrivé récemment.
Un indispensable du pot-au-feu ou de l'os au bouco, qui avait été interdit, bien sûr, pendant la crise de la vache folle. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de problème, vous pouvez en manger. Il est issu en général du fémur ou du tibia du bœuf ou du veau, d'ailleurs. Et on le trouve souvent en tronçon, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur, ou coupé en deux dans le sens de la longueur.
Moi, je préfère couper en deux, je trouve ça
c'est pour le manger tel quel, évidemment. Alors, petit conseil, vous le faites dégorger quelques heures dans de l'eau froide, que vous renouvelez deux, trois fois. Ça, c'est pour avoir une moelle plus blanche, pour enlever les petits résidus de sang. Et puis, pour la recette classique, mais très efficace et hyper simple, vous parsemez votre os à moelle d'un peu de thym séché, d'une pointe de gros sel. Vous enfournez 15 à 20 minutes à 200 degrés. On termine par un tour de moulin de poivre et on sert sur une tranche de pain grillé.
Et
tout
oui,
simplement, c'est
pain de campagne,
pur bonheur. Et puis là, je l'ai associé plus récemment, recette originale, à des Saint-Jacques, un terre-mère, des petites Saint-Jacques. Alors, des Saint-Jacques coupés en rondelles un peu épais, soit une petite rosace. À côté, vous faites votre os à moelle et vous venez poser au dernier moment la moelle qui est évidemment chaude sur les Saint-Jacques qui sont tièdes.
Magnifique.
On arrose avec un petit peu de gras qu'on a récupéré de cet os à moelle. C'est une merveille. Et puis en Italie, on l'utilise aussi pour le risotto à la milanaise, évidemment.
Bel accent.
Et on fait fondre la moelle dès le début dans du beurre. Ensuite, on ajoute l'échalote, on fait revenir le riz arborio, carnaroli pour le rendre translucide. on mouille avec le vin blanc et puis le bouillon. Et on termine au beurre froid, parmesan et safran.
Oh là magnifique. Là, on a l'eau à la bouche.
Voilà, trois recettes pour un os à moelle.
Merci Olivier, merci Vanessa, à demain.
L'heure de chronique sont bien sûr à retrouver, vous le savez, sur Europe1.fr pour la recette et les détails de la balade de Vanessa. Vous le savez aussi que sur Europe 1, juste après cette matinale, c'est Frédéric Taddeï qui vous donne rendez-vous de 9h à 10h pour C'est arrivé cette semaine et C'est arrivé demain. Deux émissions pour éclairer l'actualité des derniers jours, réfléchir aux événements à venir en compagnie d'invités. Et aujourd'hui, il reçoit notamment Mathieu Boccoté, l'auteur des Deux Occidents, publié à La Cité, sur le Groenland et l'Iran. Il est 6h58 sur Europe 1. La pop culture aussi n'est plus très loin, Alexis. Ce sera les présidents au cinéma.
Exactement. C'est un rôle prestigieux de jouer un président de la République. D'ailleurs, vous avez vu Denis Podalydès dans le rôle de
François Mitterrand.
Ouais, de François Mitterrand. Ça a été diffusé récemment à la télévision. François Mitterrand qui a été joué également par Michel Bouquet. Mmh. Denis Podalydès, on en parle également, puisqu'il a joué Nicolas Sarkozy également. On va voir comment ils s'en sortent, les acteurs dans le rôle d'un président.
Et puis à suivre également sur Europe 1, c'est juste avant ça, la pop culture, c'est notre rendez-vous avec Roland Pérez. Ai-je le droit ?
Oui, avec Roland, on va revenir sur un thème important, celui des contrôleurs dans les transports, qui sont désormais équipés de caméras.
On a le droit d'être filmés.
On a le droit d'être filmés, ils peuvent filmer. Ça peut éviter de graves tensions, vous l'entendrez. Et puis votre journal, dans moins de deux minutes, avec l'accord du Mercosur. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 matin week-end. Skoda.
On peut décider de reprendre le sport, de moins sortir le soir, de manger plus sainement, ou même de ne prendre aucune résolution. Mais acheter une voiture sans avoir essayé de Skoda, ça, on ne peut pas.
Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un minimum de 4000 euros d'équipement offert pour l'achat d'un véhicule neuf sur toute la gamme Skoda. Détails sur skoda.fr. Rendez-vous en concession pendant nos portes ouvertes ce week-end.